Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci infiniment d'être venus. Nous sommes très, très, très heureux de vous accueillir. En effet, depuis 2015 déjà, le Conseil départemental, pleinement engagé dans la sauvegarde de la biodiversité, a reçu Jean-Louis Étienne, c'était en 2017. Il est médecin, explorateur, écrivain, et c'était à l'occasion du colloque sur l'eau et le changement climatique, réagir en Haute-Garonne. Plus récemment, en 2019, nous recevions le glaciologue et climatologue Jean Jouzel pour le colloque sur la biodiversité sur 131. Aujourd'hui, et après quelques mois d'absence, nous sommes très, très, très honoré de vous présenter ce colloque sur les arbres et forêts en Haute-Garonne, un bien commun à conserver, avec un invité de marque qui est présent, Francis Allais, qui est botaniste, biologiste, spécialiste, grand spécialiste des arbres. Et puis, il y aura également de nombreux invités pour débattre à l'occasion de nos deux tables rondes. Pour démarrer cet après-midi, eh bien, je vais d'abord donner la parole à Jean-Michel Fabre, qui est vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne, chargé de la transition écologique, des mobilités douces, du logement et de l'habitat. Avant de lui donner la parole et que vous puissiez l'entendre, je vous propose de découvrir une vidéo sur notamment la forêt de Buzet. La forêt de Buzet qui a été acquise par le conseil départemental en 1981. Jean-Michel Fabre, c'est à vous.
Merci. Merci. Et bonjour à tous. C'est un très grand plaisir, au nom du Conseil départemental et de son président, Georges Méric, de vous accueillir ici en tant que vice-président de la transition écologique pour ce colloque tant attendu. Et je suis ravi de faire cet accueil avec mon collègue, j'allais dire mon complice, Pascal Bourreau, président de Haute-Garonne Environnement et co-organisateur de ce colloque. Arbres et forêts en Haute-Garonne, un bien commun à préserver. C'est le titre que nous avons souhaité donner à ce colloque, qui est à la fois l'aboutissement d'un long travail préparatoire et qui sera le point de départ d'une politique globale. Une politique que nous souhaitons repenser sur un sujet qui, au cours des ans, est devenu central en Haute-Garonne comme partout dans le monde. Fixer le carbone, protéger la biodiversité, développer de nouvelles énergies, il n'y a pas de politique environnementale qui ne croise pas la question des arbres et des forêts. Et puis, il y a cette pandémie qui nous touche encore aujourd'hui et qui a montré par la privation à quel point nous avions besoin de nature, de forêts en particulier. L'accès à la nature, aux forêts, devient un droit fondamental que nous devons désormais défendre, un droit universel qui suppose aussi, quand on est républicain, de travailler à l'égalité d'accès aux droits. Ce colloque s'inscrit dans un programme plus large que nous appelons l'acte 2 de la transition écologique qui, après l'acte 1 de 2017 à 2020, a engagé notre collectivité depuis lors et jusqu'en 2024 dans cette bataille collective de la transition écologique. Un engagement autour de quelques grands axes, quelques grands dossiers où nous agissons concrètement et qui, pour beaucoup, recoupent la question de l'arbre et des forêts. L'eau, un autre bien public à préserver, la biodiversité à défendre dans les Pyrénées comme au cœur des villes, la révolution que nous accompagnons de l'agroécologie pour un nouveau modèle d'alimentation relocalisé, les mobilités douces avec de grandes ambitions sur le développement du vélo du quotidien et bien entendu au cœur de tout, au cœur de toutes les politiques, l'éducation à l'environnement et ce que mon collègue Pascal Bourreau appelle la démocratie coopérative pour construire les politiques. Alors oui, le colloque d'aujourd'hui pour nous est fondamental car il va nous permettre de mettre en débat puis de mettre en œuvre une politique co-construite. L'histoire des relations entre le département, le conseil départemental de la Haute-Garonne et la forêt, les arbres plus globalement, est une histoire qui ne date pas d'hier, vous l'avez vu, mais une histoire qui s'accélère. Notre département s'est engagé il y a 40 ans en achetant la forêt de Buzet pour la préserver. C'est cette forêt qui a fait l'objet de notre premier classement espace naturel sensible. C'est cette forêt qui a accueilli il y a 2 ans la première maison de la biodiversité. Ces dernières années, et encore dans quelques jours, notre politique de classement et de protection des espaces naturels sensibles nous a amené à protéger beaucoup de lieux très différents, mais beaucoup de forêts et beaucoup de biodiversité qu'abritent ces forêts. Avec la forêt de Buzet, j'en parlais, la forêt de Bouconne, un joyau à quelques kilomètres de Toulouse, plus de 2000 hectares, mais aussi dans les Pyrénées et dans quelques jours, je crois que c'est demain, on va protéger de très très grands espaces forestiers en particulier dans les vallées qui entourent la Garonne au sud du département. Mais agir pour les arbres ces dernières années, ça a aussi été protéger les arbres présents le long de la Garonne, comme dans et autour de ces zones humides pour lesquelles nous avons créé le Conservatoire départemental des zones humides. Agir pour les arbres, c'est accompagner depuis des années les agriculteurs dans la plantation de haies. Cette année, on m'a dit tout à l'heure, ça devrait être près de 30 km de haies plantées par et avec des agriculteurs. Et on a franchi le cap de 1000 km de haies plantées au niveau agricole. Agir pour les arbres, c'est chaque jour préserver les milliers d'arbres qui sont le long de nos routes et qui contribuent à la beauté des paysages qu'on découvre. Demain, ce sera planter des arbres le long des réseaux express vélo. Hier, on était dans une réunion de concertation. Beaucoup de gens sont venus nous dire « N'oubliez pas de planter des arbres le long des réseaux express vélo. » Agir pour les arbres, c'est expérimenter de nouvelles manières de végétaliser nos collèges, de planter des arbres dans nos collèges avec les collégiens. Et vous découvrirez tout à l'heure des expérimentations comme la plantation de micro-forêts. Tout ceci est fait, sera fait, mais tout ceci ne sera pas suffisant face au changement climatique, à la fragilisation de nos forêts. Tout ceci ne sera pas suffisant pour préserver la biodiversité cachée de nos forêts. Il nous revient donc à notre niveau, collectivement, comme nous l'avions fait sur l'eau, sur le développement des réseaux vélos, de construire avec tous les acteurs, comme nous le démarrons aujourd'hui, une politique globale pour agir dès à présent. Et ça passe par une co-construction pour éviter à la fois les faux débats et surtout pour prendre ce que nous appelons des mesures sans regret. C'est complexe. Les enjeux sont majeurs pour la planète comme pour la vie quotidienne de chaque Garonnais. Alors, avant de vous laisser la parole, je voudrais déjà remercier tous les intervenants de cette journée, particulièrement Francis Allais, qui en tant que grand témoin va nous aider à prendre de la hauteur, de la distance, pour pouvoir demain, ensemble, en ayant bien les pieds sur terre, agir de manière cohérente sur nos forêts. Tout le monde connaît la phrase de Saint-Exupéry, « Nous n'héritons pas de la terre nos enfants, nous l'empruntons à nos enfants ». Lorsqu'il s'agit d'arbres, plus que jamais, cette phrase trouve toute sa force.
Merci beaucoup Jean-Michel Fabre. Pour suivre, Pascal Bourreau, vous êtes le président du syndicat mixte Haute-Garonne Environnement. Avant de vous céder la parole, Pascal Bourreau, je vous propose, mesdames et messieurs, de regarder un petit film sur la maison de la biodiversité. Pascal Bourreau, c'est à vous.
Oui, merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans les locaux du Conseil départemental pour cette première partie de ce colloque Arbres et forêts qui va se dérouler jusqu'à 18h avec plusieurs tables rondes où nous pourrons faire un point sur la situation de la forêt haut-garonnaise. La deuxième partie étant consacrée un dialogue entre Ernst Zürcher et Francis Allais, que je suis très heureux aussi d'accueillir, bien sûr, parmi nous, qui aura lieu ce deuxième temps de 19 à 21h. Entre les deux, vous pourrez visiter l'espace exposition qui se situe juste en dessous, au rez-de-chaussée, avec plusieurs expositions, bon, entre autres de Haute-Garonne Environnement et de ses outils pédagogiques, bien sûr. Oui, je précise, Haute-Garonne Environnement, c'est un syndicat mixte qui regroupe près de 300 communes de Haute-Garonne et 91 associations environnementales. Vous pourrez découvrir le dernier outil biodiversité, donc ça fait le lien avec ce qu'on vient de voir, puisque cet outil biodiversité a été installé au sein de la maison de la biodiversité au cœur de la forêt de Buzet. Et il y aura aussi nos collègues de la direction des routes et de la direction agroécologie qui vous présenteront leurs actions pour la préservation de la biodiversité. Et nous aurons aussi le plaisir d'accueillir, et vous pourrez les voir en fin de journée, les associations Arbres et Paysages d'OTAN, la FNE, ainsi que le Conservatoire des espaces naturels qui seront présents sur ce forum des associations. Alors, vous dire rapidement, comme vous l'a dit Nathalie, que c'est une habitude, le syndicat environnement avec le conseil départemental organise régulièrement des colloques. Le premier, c'était en 2015, juste avant la COP21, colloque sur le changement climatique avec Serge Planton, membre du GIEC et chercheur à Météo France, qui nous avait permis d'ailleurs de réaliser une participation à la COP21 avec une contribution de la Haute-Garonne. Ensuite, comme vous l'a rappelé Nathalie, en début de séance, en 2017, nous avions eu le plaisir de recevoir Jean-Louis Etienne sur l'eau. Et en 2019, Jean Jouzel sur les questions liées à la biodiversité. Ce colloque Arbres et forêts, on a souhaité vraiment avoir Francis Allais avec nous parce que c'est vraiment un des grands témoins de ce domaine. Et c'est à chaque fois l'intérêt qu'on y trouve, c'est d'associer les grands témoins et les acteurs locaux. Les acteurs locaux que vous êtes, hein, représentants des élus, représentants d'associations. Et c'est pour nous indispensable si on veut co-construire des politiques publiques qui répondent aux besoins de nos citoyens. Et l'objectif aussi, c'est de construire ensuite un plan pluriannuel. Un plan pluriannuel sur la question des arbres et des forêts qui sera élaboré dans les semaines qui viennent et qui sera présenté à la session départementale du budget 2022. Parce que aujourd'hui, nous le savons tous, le changement climatique accentue la nécessité d'agir vite et d'agir à la fois au niveau local et au niveau mondial pour le bien-être de tous les êtres vivants. Parce qu'il n'y a pas de réelle frontière entre le monde végétal et le monde animal. Francis Allais l'exprimera sans doute lui-même tout à l'heure, mais à travers les livres qu'il a pu écrire, on sent bien que les arbres et les forêts, c'est aussi de l'intelligence collective. Ils sont en capacité eux-mêmes d'agir, tout comme le monde animal. Alors ces travaux que l'on espère riches et fructueux cet après-midi nous permettront d'alimenter la réflexion. Et tout ceci s'inscrit dans une démarche politique globale du Conseil départemental de nature à favoriser l'éclosion d'une société plus humaine, plus sobre et plus résiliente. Je vous remercie.
Pascal Bourreau, merci beaucoup. En effet, vous l'avez souligné, nous allons vivre ensemble une journée plutôt assez dense. Avant le mini-forum des associations et avant la conférence débat avec Francis Allais et Ernst Zürcher, en partenariat avec le magazine Sans Transition et les éditions Actes Sud. Une première partie avec une balade en forêt dans quelques instants. Et puis ensuite, deux tables rondes. Une première qui aura pour thème la forêt en Haute-Garonne, fragile mais pourtant si utile, à 15h15 et aux alentours de 16h30, sur cette deuxième grande partie, une seconde table ronde vous sera proposée pour débattre des solutions en vue d'aménager son territoire en mettant en valeur les arbres et les forêts avec des témoignages et des paroles d'acteurs. Une jolie balade en forêt avec Francis Allais. Vous êtes biologiste, botaniste, grand spécialiste des arbres. Notre forêt, ou plutôt la forêt, c'est notre allié pour un monde plus durable. Vous êtes diplômé de la Sorbonne, de l'université d'Abidjan. Vous êtes professeur de botanique à l'université de Montpellier, spécialisé dans l'étude des arbres et des forêts tropicales humides. Parmi vos grands travaux, on notera la série de missions scientifiques que vous avez dirigées jusqu'en 2003, baptisée le Radeau des Cimes, relatif aux forêts primaires dont nous allons évoquer, nous allons parler d'ici quelques instants. Ça vous a emmené avec votre équipe en Guyane, au Gabon, à Madagascar, au Panama, très régulièrement. Vous dénoncez la déforestation, le saccage des forêts primaires, des réserves exceptionnelles de vie sur Terre. Et puis, il y a eu également, sur une idée que vous avez eue, Francis Allais, le cinéaste Luc Jacquet, qui a réalisé en 2013 un film sur les forêts tropicales menacées. Il était une forêt. Aujourd'hui, Francis Allais a un magnifique projet dont nous parlerons d'ici quelques instants, recréer une forêt primaire. Pour débattre, j'ai à mes côtés Julien Deséchos, qui est directeur du magazine Sans Transition. Messieurs, offrez-nous vos lumières.
Attendez, je vais le nettoyer. Merci Nathalie pour cette présentation très complète.
On va rentrer directement dans le vif du sujet, Francis. On vous a présenté de manière très complète. J'ajouterai que l'ouvrage que vous venez de décrire chez Actes Sud pour une forêt primaire en Europe de l'Ouest est sorti en septembre dernier. Alors, avant de faire le lien avec peut-être la vidéo de la forêt de Buzet, mais d'abord, c'est quoi une forêt primaire ? Et on va voir que c'est différent de nos forêts, des forêts telles qu'on les connaît, que vous appelez d'ailleurs plutôt plantations forestières.
Je commence par dire que nous n'avons plus de forêts primaires en Europe. Vous m'entendez là ? Nous n'avons plus de forêts primaires en Europe. Il y en a une encore en Pologne. La fameuse forêt de Białowieża qui est une grande merveille, mais elle est hélas dramatiquement menacée dans son existence même par la politique polonaise actuelle. Si cette forêt de Białowieża est détruite, hélas, je crois que c'est inéluctable, nous n'aurons plus en Europe que des forêts secondaires. Moi, ça ne me convient pas. Les forêts secondaires, je ne veux pas être discourtois, mais c'est moche. Voilà. C'est déstructuré. Il y a trop d'arbres et ils sont trop petits. Il n'y a pas, de grands et vieux arbres. La forêt, la canopée est complètement déstructurée parce qu'on a abattu plein de choses. Et la faune n'est pas complète parce que la chasse a éliminé les grands animaux. Bon, d'où l'idée de favoriser, je ne dirais pas refaire, vous allez comprendre pourquoi, favoriser la réapparition d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Qu'est-ce qu'une forêt primaire ? C'est une forêt qui n'a jamais été exploitée, voilà, qui, depuis son origine. Elle a pu l'être, hélas, parce que sur notre planète, il y a guère de forêts qui n'aient jamais été exploitées. Mais si elle l'a été, et si un temps suffisant s'est écoulé pour que le caractère primaire revienne, eh bien, on peut faire ça, mais c'est long, ça se compte en siècles. C'est comme ça, c'est pas un choix. C'est la rapidité de croissance de nos pauvres arbres d'ici. Je voudrais vous faire remarquer que quand on est à 44 degrés de latitude, comme Toulouse, les arbres, ils poussent 4 mois par an. Mars, avril, mai, juin, c'est tout. Ils vivent le reste du temps, mais ils ne poussent pas. Et donc, c'est forcément très long pour faire une forêt primaire. Okay, je me lance comment, dans la description
oui, on
de ce
y va.
Projet.
Comment on s'y prend pour recréer une forêt primaire ? Concrètement, il faut choisir un lieu, il faut trouver une,
alors, il faut un lieu,
belle
il faut
superficie,
un lieu.
Il faut convaincre.
Bon, je vais rentrer dans un peu de détails. Il faut un
détails.
Lieu, en effet, et comme ça sera un projet européen, il faut que ce lieu soit transfrontalier entre la France et un de nos pays voisins. Et en ce moment, on est en train de visiter ces 5 binationalité pour voir laquelle sera la meilleure. Il va nous falloir 70 000 hectares. Alors quand je dis ça, j'ai toujours des collègues écologistes ou forestiers qui me disent « c'est monstrueusement grand ». Je ne suis pas d'accord. 70 000 hectares, c'est un carré de 26 km de côté. On ne peut pas dire que ce soit gigantesque. Et pour vous, à Toulouse, qui avez sans doute des références méditerranéennes, j'ai une autre comparaison dans les îles Baléares. Majorque, c'est grand, Minorque, c'est petit, et bien 70 000 hectares, c'est Minorque. Un point sur la carte de Méditerranée, alors qu'on n'essaye pas de me faire croire que c'est gigantesque.
Et pourquoi 70 000 hectares ?
Alors, 70 000 hectares, parce que c'est indispensable pour la faune complète de la forêt primaire européenne. Ça, c'est copié sur la forêt de Białowieża, qui a justement cette faune complète. S'il n'y avait que les arbres, on n'aurait pas besoin de tant de surface. Mais si on veut avoir 2 meutes de loups et des bisons d'Europe et des lynx, etc., eh ben, il faut 70 000 hectares. Et à cette condition-là de surface, l'équilibre se fait entre les prédateurs et les proies.
Une fois qu'on a le lieu, une fois qu'on a 70 000 hectares,
oui.
Qu'on a cet objectif d'avoir une faune complète...
Oui.
C'est quoi les priorités ? Comment on s'y prend concrètement ?
Eh bien justement, on ne s'y prend pas.
Alors on laisse faire ?
On laisse faire. C'est ce qu'on appelle la libre évolution. Les forestiers professionnels ont souvent un petit peu de mal à s'y faire, mais je constate qu'ils changent et que maintenant la libre évolution est considérée comme une pratique forestière comme une autre. On ne fait rien, on ne retire rien. Si un arbre tombe, eh bien on le laisse au sol. et il va pourrir et rentrer dans le sol, et ça remet dans le sol les minéraux que l'arbre en avait sortis pendant toute la durée de sa vie. On ne ajoute rien, on n'a pas question d'essayer d'accélérer le processus en plantant des arbres, ça c'est sûrement une maladresse. La durée, elle est difficile à dire parce que nous n'avons pas encore le site et que ça dépend de l'âge de la forêt sur le site. Mais attendez, je vais parler de façon un peu schématique. Si on partait d'un sol nu, on ne va pas le faire, mais enfin, supposez que nous partions d'un sol nu, pour avoir une forêt primaire, il faudrait 10 siècles. Bon, on va partir d'une forêt de 4 siècles, j'espère qu'on va pouvoir trouver ça. Eh bien, à ce moment-là, il manquera 6 siècles. C'est long, mais ce n'est pas un choix. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 6 siècles ? La forêt secondaire qu'on a sous les yeux, elle va vieillir, mourir et s'écrouler. Et avant qu'elle ne tombe, il va y avoir une forêt de post-pionniers qui vont durer plus longtemps et qui sont plus grands. Et puis ceux-là aussi vont devoir disparaître et laisser la place à la forêt primaire elle-même. Mais celle-là, il va lui falloir le temps de grandir, que les arbres deviennent aussi grands que possible. Donc c'est long.
Donc il va falloir patienter. Mais vous avez déjà évidemment regardé de près des territoires, des zones qui correspondent à des critères.
Vous dites les Vosges, le Palatinat. On va se lancer maintenant dans les Ardennes belges, les Ardennes françaises. Enfin, je suis persuadé qu'on va trouver, mais on veut d'abord voir toutes les pistes possibles avant de faire le choix. Maximum de fixation du gaz carbonique. Je résume les propriétés écologiques fondamentales de la forêt primaire. Le maximum de fixation de dioxyde de carbone, le maximum de stockage de ce carbone, puisque les arbres sont énormes et très très grands, le maximum de richesse, de fertilité des sols, le maximum de diversité biologique, et puis il y a un aspect qui m'est très cher mais qui est moins habituel, le maximum de beauté. Vous rentrez dans une forêt primaire, je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, mais si ça se trouve et que vous rentrez dans une forêt primaire, vous constatez immédiatement que c'est beaucoup plus beau que ce dont vous avez l'habitude. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour distinguer une forêt secondaire d'une forêt primaire. J'ai trouvé une phrase d'un collègue forestier des États-Unis qui me paraît très forte et à laquelle j'adhère totalement. James Balogh, il dit « La forêt primaire est à la forêt secondaire ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout. » C'est clair. Maintenant, j'en ai une un peu plus drôle qui vient des étudiants de Montpellier. La forêt primaire est à la forêt secondaire ce qu'un grand champagne millésimé servi frappé dans une haute coupe de cristal est à un coca tiède dans un gobelet en carton. Je veux dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté.
On a bien compris. Bon, c'est clair. Oui, on va prendre évidemment le verre de champagne, je crois, tous ici. Du coup, cette beauté. Je pense qu'il y a peu de personnes dans la salle qui a déjà voyagé dans une forêt primaire. Tout à l'heure, vous aurez peut-être des questions justement bien à poser. Donc on voit qu'on est très peu nombreux, on méconnaît forcément, il n'y en a plus.
Mais c'est normal, les Européens, ils ne savent même plus de quoi je parle quand je dis ça. On me dit, mais c'est les tropiques, ça. Non. Quand l'être humain est arrivé en Europe, il y avait une forêt primaire depuis la Bretagne jusqu'à la Russie et même au-delà. Voilà.
Alors cette idée... On vous appelle Francis, mais
non.
Cette idée de forêt primaire, elle est venue un matin en se réveillant. Comment c'est
non, arrivé elle est venue...
Vous êtes tombé sur la tête.
Non, elle est venue quand j'ai appris que le gouvernement polonais actuel, le gouvernement de Andrzej Duda, avait programmé, planifié l'exploitation de Białowieża. Ils n'ont aucune sensibilité écologique. Voilà ce qui se passe quand on met au pouvoir des gens qui ne comprennent rien. Alors, je me suis dit... Alors, j'ai appris que l'Europe avait fait des quantités de remontrances, mais ils n'écoutent plus l'Europe. Il est question que la Pologne sorte de l'Europe. D'ailleurs, j'ai lu ça dans le journal. Enfin, bref, je ne vais pas me battre avec la Pologne. Moi, ce n'est pas mon métier. Et donc, je pense que la solution... Ben, c'est d'avoir une forêt primaire plus près de chez nous. il va falloir être un peu patient. Mais vous savez, 7 siècles, ça paraît gigantesque à l'être humain, mais c'est un clin d'œil pour la croissance d'une forêt. Et pour un géologue, c'est même pas un clin d'œil, c'est rien. C'est une étincelle de temps. Alors, il ne faut pas être trop pressé. Dès qu'on s'occupe d'arbres et de forêts, si on essaye d'aller trop vite, c'est l'échec. C'est très simple.
Alors, il faut prendre son temps. Et pourquoi ne pas avoir essayé, peut-être l'avez-vous fait, mais pourquoi on ne peut pas aller en trouver en France des forêts qui soient de 4 siècles? Il n'y en a pas non plus?
Si, mais...
Pourquoi aller aussi loin, finalement, qu'en Pologne, même si c'est prêt?
Eh bien, il faut que ça soit transfrontalier parce que c'est un projet européen et la communauté européenne qui nous soutient massivement, elle préfère de beaucoup que ça soit entre 2 ou même 3 pays d'Europe plutôt que faire un projet franco-français. Je comprends ça très bien. D'ailleurs, personnellement, je préfère qu'il y ait 2 pays parce que s'il y en a un qui perd le moral, l'autre va lui dire « Oh, faudrait vous secouer un peu ». Voilà.
Donc ce projet de forêt primaire, il va falloir être patient, attendre 6 siècles. À la fin, qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir?
Eh bien, toute la gamme de cette potentialité écologique. Je n'imagine pas un système écologique meilleur et plus performant qu'une grande forêt primaire. C'est exactement l'antidote dont nous avons besoin en face des problèmes écologiques énormes auxquels nous sommes obligés de faire face actuellement. Alors, je ne dis pas que ça va changer le climat, c'est pas vrai. 70 000 hectares, c'est beaucoup trop petit pour changer le climat. Mon rêve, c'est que on voit que ça ne coûte pas cher, parce que ne rien faire, ça ne devrait pas être coûteux. Et que d'autres pays d'Europe commencent s'y mettre également. J'ai des amis espagnols qui me disent, si tu le fais chez toi, nous on le fait chez nous. Ben, je leur ai dit, allez-y, aucun problème.
Ça va créer une émulation, ça peut donner des idées, ça peut...
Je pense, parce que la beauté, elle attire des quantités de gens. C'est un projet de développement du territoire aussi. Hein. Parce qu'il faut voir la forêt de Biélovieja à la belle époque. Il y avait des grands laboratoires avec des chercheurs du monde entier et des milliers de touristes qui arrivaient en permanence, été comme hiver. Donc ça génère de l'activité, il faut des gardes, il faut des guides, il faut des gens qui s'occupent des pare-feux, il faut bâtir des bâtiments pour la recherche, des bâtiments pour la restauration, le logement des touristes, etc. On a laissé un peu courir notre imagination devant la Commission européenne. On envisage une université européenne de la forêt qui nous manque cruellement. Voilà. Et... Enfin, on a plein d'autres projets farfelus, je vais pas...
Et de quels moyens financiers? Vous dites que c'est peu coûteux, mais il faut quand même acquérir des terrains.
Pas question d'acquérir des terrains.
Pas comme la forêt de Buzet?
Non.
Alors comment on fait?
Parce que quand on achète des terrains, d'abord il faut avoir les moyens de le faire, et puis ensuite les gens du coin se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent de l'autre bout de la France et qui achètent nos terrains? Non, il va falloir qu'une décision politique nationale et européennes mettent à notre disposition les surfaces nécessaires. Mais on n'en est pas propriétaire. Personne n'a envie d'être propriétaire de ça. Donc, c'est effectivement, sur ce plan-là, le budget est réduit.
Donc une décision, ça veut dire une préemption, ça veut dire quoi, cette décision juridique?
Alors, il y a des aspects juridiques, je dois dire, qui me dépassent complètement. Mais on travaille avec une équipe de juristes européens et... Il faut eux-mêmes qu'ils créent des outils dont ils n'ont pas l'habitude, parce que ça ne joue pas sur des siècles, leur projet actuel.
Donc une fois que tous ces freins vont être levés, on voit qu'il y a un cap avec cette forêt primaire. Retrouver une forêt primaire très riche en biodiversité, en beauté, ici, près de chez nous. Vous, votre rêve, Francis, c'est de pouvoir démultiplier ces forêts.
Alors, je voudrais dire d'abord que ça sera ouvert au public. Okay. Il y a des journaux mal informés qui ont dit que ça serait une mise sous cloche ou un sanctuaire. Non, pas du tout. Les visites seront non seulement autorisées, mais favorisées. Je rêve même, mais ça fait partie des projets farfelus, je rêve d'une visite par la canopée.
Le radeau des cimes.
De petits engins qu'on appelle les bulles des cimes. Ça ne coûte pas cher, c'est pas dangereux du tout, ça marche très très bien. Et vous vous déplacez sur la canopée en suivant un câble qui a été mis là. Alors, oui, un point important, c'est qu'il ne faut pas piétiner le sol. À mesure que la forêt vieillit, le sol devient de plus en plus meuble. Et donc, s'il y a des cohortes de touristes, ça tasse le sol autour des racines. Et on sait maintenant que ça peut très bien tuer des arbres. Donc, les visiteurs seront les bienvenus, mais on est prié de ne pas mettre le pied au sol. Il y a d'ailleurs des quantités de parcs nationaux dans le monde entier où on marche sur des petits caillebotis, voilà. Et donc, ça ne pose aucun problème.
Donc, on pourrait venir par les airs, le radeau des cimes ?
Pas un radeau, non, un radeau, ça ne bouge pas.
Alors, comment on vient ? Si on ne peut pas poser le pied à terre, comment on fait pour...
Ah ben on prend place dans le petit ballon en dehors du site. Et puis après, on se tire sur la grombe. Il faudrait un dessin. Mais bon, c'est très facile à imaginer. C'est un petit ballon à hélium sans moteur. Donc, il n'y a pas de bruit. Et on est juste en contact avec le sol par radio si jamais il y a un problème. Voilà.
Donc, pas de mise sous cloche. On est vraiment dans une forêt ouverte à tous.
Mais nous, on travaille pour nos contemporains, mais aussi nos successeurs. C'est un patrimoine de très haute qualité écologique que nous voudrions laisser aux générations futures. C'est ça le but. Voilà.
Et aussi de travailler, j'imagine, avec les écoles, travailler aussi avec l'ensemble des acteurs pour...
Ils sont évidemment tous les bienvenus. Les écoles, je ne suis pas inquiet, ça va les passionner.
Merci Francis Allais pour ce beau projet. Peut-être un dernier point sur votre association que vous avez créée aussi autour de cet appel pour une forêt primaire.
Alors si jamais il y en a parmi vous qui voudraient nous aider, le plus important pour nous c'est d'avoir le maximum d'adhésion à notre association. Parce que le jour où il va falloir affronter les politiques, moi je vois bien ce qui se passe. Si vous avez 3000 adhérents, on vous dira non, ça n'a pas de sens. Si vous en avez 30 000, à ce moment-là, ils sont quasiment obligés de dire oui. Donc il faut qu'on soit très nombreux. Voilà. Vous tapez forêt primaire, ça vient tout seul.
L'appel est lancé.
L'appel est lancé.
Merci Francis Allais pour ce magnifique projet. On va prendre des questions dans la salle pour celles et ceux qui ont déjà vu des forêts primaires, mais pour tous ceux qui ont des questions pour Francis, c'est le moment. Je vous invite à lever la main. On va vous passer le micro pour poser toutes vos questions. C'est à vous.
Serait-ce par timidité ou par manque de questions ? Profitez de cette occasion que d'avoir... Madame. On va vous faire passer un micro. Allez, allez-y.
Vous avez un micro devant vous, madame.
Ou monsieur.
Monsieur, pardon.
Vous m'entendez ? Une question pour Francis. Du coup, est-ce que dans les différents projets de forêt primaire qui relieraient deux pays, est-ce que les Pyrénées auraient été envisagées, par exemple, entre la France et l'Espagne, du coup?
Bien entendu, la forêt de la Massane dans les PO, ça fait partie des pistes que nous avons, bien entendu. Bon, ceci étant, je suis désolé parce que j'habite dans la région, mais je ne voudrais pas qu'il y ait trop de dangers de feu. Vous savez que même maintenant, même dans les Vosges, mais même bien plus haut, jusqu'en Suède, ils voient apparaître des feux et... Bon, il faut essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Donc, les forêts méditerranéennes, on va les regarder avec cet œil-là. Peut-être que des pare-feux beaucoup plus larges qu'ailleurs, ça pourrait faire l'affaire. Je ne suis pas compétent, là. Mais on ne les a pas oubliés. Il y a même une parcelle entre la France et l'Italie que je ne connais pas du tout, mais qui est certainement très intéressante. La biodiversité est d'autant plus forte que vous êtes plus au sud. Donc, c'est tentant aussi.
Une autre question, peut-être ?
Madame, on vous écoute.
J'ai entendu dire que pour une protection de feu, le cèdre était un arbre qui pouvait servir de pare-feu. Parce que le cèdre.
Ouh, un pare-feu en cèdre, je me méfie.
Alors, voilà. Arrivant doucement... Le cèdre est rempli d'eau. Je vous donne l'explication.
Non, ce n'est pas le cèdre. Je crois que vous faites erreur, madame. C'est le cyprès.
Pardon, le cyprès.
C'est les cyprès. Excusez-moi. Et c'est des collègues espagnols qui ont montré ça.
Voilà.
Ils ont mis sur Internet des images de forêts complètement carbonisées, tout est noir.
Voilà.
Oui. Pas les cyprès, pas qui les sont cyprès. Bien... Oui. Bon, alors ils ont, ça les a beaucoup intéressés. Et ils ont montré que quand, supposé que ça soit le cyprès, ça, quand le feu arrive, la température du cyprès augmente. Et à 60 degrés, il dégaze.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il envoie dans l'atmosphère tout ce qui pourrait brûler. Toluène, terpènes, hydrocarbures, alcool, etc. Et tout ça part dans l'atmosphère.
Mais et comment donc, c'est capté dans l'arbre, tout ça?
Pardon?
Comment c'est capté pour qu'il puisse rejeter...
Mais c'est dans l'arbre.
C'est dans l'arbre.
Et c'est ce qui peut brûler dans un conifère, vous voyez. Alors, c'est de ça que l'arbre se débarrasse.
D'accord.
Et donc, quand le feu arrive, ben, il ne brûle pas. C'est ce qu'on voit sur les photos espagnoles. Maintenant, la deuxième partie de l'histoire est plus intéressante encore, je crois. C'est des molécules volatiles, tout ça. C'est des parfums, si vous voulez. Donc, ça descend le vent et ça atteint des cyprès qui sont encore très loin du feu et dont la température n'a pas augmenté. Eh bien, ça, c'est un des bons exemples de message d'un arbre à l'autre, parce que ces arbres qui sont très loin sous le vent, ils dégazent. Ils vont finir par être atteints par le feu et ils ne brûleront pas. Alors, les Espagnols, bon, il y a une grosse polémique en Espagne parce que il y a des gens à qui ça ne plaît pas de faire des pare-feux avec un résineux. Alors, ils ont mis un briquet dans un cyprès. Évidemment, ça brûle comme une torche. Mais c'est pas n'est-ce pas, la mécanique lente dont je parle. Un très, très beau résultat.
Une autre question, peut-être, monsieur? Vous vouliez... Allez-y.
Merci. Je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai pas suivi le début de la réunion. Mon nom est Jacques Fontan, j'ai été professeur à l'université Paul Sabatier, où j'avais créé le laboratoire d'aérologie. Et nous nous sommes intéressés à la forêt équatoriale en ce qui concerne les dégagements de ce que vous avez appelé terpènes isoprènes pour savoir quel était le rôle dans la chimie de l'atmosphère.
Oui, oui.
Voilà, alors on avait organisé une campagne de mesure dans le nord du Congo qui s'appelle les DKF. DKF, ça voulait dire... je me souviens plus. Enfin, c'était chimie de... Enfin, il y avait dynamique et chimie de l'atmosphère en forêt équatoriale.
Au Congo, vous dites?
Au nord du Congo, hein?
Oui.
Au nord du Congo, au niveau de l'équateur.
Le Congo-Brazzaville ou la République démocratique du Congo?
Au niveau Brazzaville. Hein?
Pardon?
Au Congo-Brazzaville.
Ok, oui, d'accord.
Et vous avez peut-être entendu parler de la campagne des cafés.
Oui, oui, j'ai vécu dans ce pays-là. Oui.
Qui était une grosse campagne organisée par le CNRS. Donc j'étais à l'origine de cette campagne. Hein. Voilà. Alors, donc, j'ai une expérience particulière qui est différente de la vôtre sur la forêt équatoriale, où je me suis intéressé à l'atmosphère et en particulier aux émanations de la forêt équatoriale, parce que une des questions qui se posait, c'était de savoir quel était le rôle des hydrocarbures dégagés par la végétation, oui, 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 dans les zones polluées, si ça s'ajoutait aux hydrocarbures. Et donc, on avait commencé par faire une campagne qui s'appelait Attila dans les Landes, où on était très gêné par la pollution anthropique, et c'est la raison pour laquelle on est allé en Afrique.
Excusez-moi, c'est en quelle année que vous avez fait ça?
En quelle année? Ben, je suis retiré, moi, depuis presque 20 ans, c'était dans les années 80, 85 à peu près. Hein.
80, 85.
On avait envisagé d'utiliser le radeau des cimes, et puis finalement...
Il y a des gens qui l'ont fait, c'est l'Institut Max Planck à Mayence. Ils ont envoyé une très grosse équipe d'aérologues.
On a travaillé avec eux. Ils
d'accord, d'accord.
Ils étaient dans la campagne des cafés. Hein.
Et alors, à cette époque-là, on ne savait pas quel était le rôle de ces molécules volatiles que la forêt envoie.
Mais c'était le but de l'expérience, c'était ça.
Eh bien, je pense que vous avez eu entre les mains les résultats des Brésiliens. Parce que maintenant, on sait très bien, c'est des molécules qui servent de germes pour faire venir la pluie.
Enfin, voilà. C'est un peu plus compliqué, hein.
Oui, je la fais brève, mais enfin, on sait maintenant à quoi ça sert.
Non, mais ça sert aussi, par exemple, autrefois, dans les Landes, on considérait que c'était un climat favorable pour les humains. C'était le Arcachon, il y avait un laboratoire de bioclimatologie. À ce moment-là, on vantait les mérites de la forêt en tant que climatologie.
Oui, c'est parfaitement vrai, oui.
Quelle était votre question, monsieur ?
Non, mais j'ai pas de question, je voulais
d'accord.
faire un commentaire en
pas
disant que j'ai une expérience différente du professeur Allais sur la forêt équatoriale.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci. Vous aviez terminé ?
Oui, oui, enfin bon, oui.
Non, non, histoire de donner la parole à tout un chacun. Y a-t-il d'autres questions ? Questions là-bas ? Allez-y.
En tant qu'élu, on peut difficilement créer une forêt primaire sur nos communes, mais par contre, on peut créer des micro-forêts. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Qu'est-ce que vous appelez des micro-forêts ? Miyawaki ?
Oui, tout à fait.
Ah oui, ah oui. J'en entends beaucoup parler, j'en ai vu aux Pays-Bas, et je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. Une maison s'effondre dans un quartier, on peut évidemment la remplacer par une nouvelle maison, mais la remplacer par un petit bosquet, je trouve que c'est vraiment manifester du respect envers les gens qui habitent là. Et voilà, mon modèle dans ce domaine, c'est les Pays-Bas, parce qu'ils ont beaucoup, et les gens sont enchantés. Alors. Ah, très bien, d'accord. Oui. Alors, j'appellerai pas ça des forêts, par contre. Excusez-moi, j'ai une définition de la forêt qui est un peu plus ambitieuse.
On a le temps de prendre encore une, deux questions. Allez-y.
Oui.
Mademoiselle ?
Moi, c'était pour savoir, à l'heure actuelle, à l'instant T, est-ce que vous avez un lieu ? Est-ce que vous avez un endroit où faire une forêt primaire ? Une idée de lieu ?
De un région, lieu, oui.
De secteur.
Ben, j'ai expliqué ça, on est en train de le chercher. Il y a plusieurs pistes. Entre la France et la Belgique, la France et le Luxembourg, la France et l'Allemagne, ça nous intéresse beaucoup. La France et la Suisse, la France et l'Italie et la France et l'Espagne. Alors il faut nous laisser le temps de voir tout ça et on choisira le mieux après.
Du coup, pardon, ça m'a une autre question, c'est comment on met d'accord des différents pays, même s'ils font partie de l'Union européenne, alors qu'on voit que même aujourd'hui, sur certains sujets très simples, on n'arrive pas à se
mettre. Je vous entends très mal. Vous pourriez parler plus près du micro.
Comment on met d'accord plusieurs pays comme ça, même s'ils font partie de l'Union européenne, on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur certains projets très simples. Alors, une forêt primaire, est-ce que vous pensez que c'est possible ?
Ça peut vous étonner, mais il y a en Europe un mouvement très intéressant en faveur de ce projet. Écoutez, il n'y a rien à perdre, hein. La forêt ne fait que gagner en valeur, que ça soit la flore ou que ça soit la faune. Alors, quels pourraient être les blocages ? Ça reste ouvert au public. Bon, il faut que les chasseurs aillent exercer ailleurs leur talent, ça c'est vrai. Mais on me dit qu'il y a de moins en moins de chasseurs, donc j'ai bon espoir qu'au bout d'un siècle, ça soit résolu, que le problème ne se pose plus. Bon, je vous donne mon point de vue personnel. Peut-être. Non, mais je crois que les pays qui vont se lancer là-dedans, ils ont compris d'abord que c'est pas cher et que c'est extrêmement rentable, mais économiquement, beaucoup plus que l'exploitation des forêts. Je pense aux Ardennes. On me dit que, oh, j'ai vérifié ça, dans les Ardennes, il y a eu de telles bagarres au moment de la guerre de 14 que les troncs d'arbres sont truffés d'éclats d'obus. On ne les voit plus. Mais aucun sieur ne veut s'attaquer à ces arbres-là. Donc voilà une bonne utilisation d'arbres inutilisables par ailleurs.
Oui, bonjour. Et comment Allez-y. Faire accepter les grands prédateurs, les loups, le retour des loups, quand on voit qu'on vient de tuer un ours dans les Pyrénées ? Comment faire accepter les bisons, tous ces gros animaux qu'on essaye d'évacuer le plus possible de nos régions montagnardes ?
Oui, je constate ça. Je pense que le problème est mal posé quand on en apporte simplement un petit peu. Là aussi, la forêt polonaise de Białowieża est un magnifique exemple. Parce qu'il y a la faune complète sur la surface suffisante. Eh bien, il n'y a aucun problème avec ces gros animaux. Il y a un équilibre entre les proies et les prédateurs. Quant aux bisons, vous savez, il ne faut pas s'en inquiéter. C'est des animaux assez terrifiants, mais ils ne sont pas dangereux du tout. Les loups, je comprends votre inquiétude. Mais si on introduit des loups et c'est tout, ça ne suffit pas. Mes collègues zoologistes me disent qu'il faut deux meutes de loups pour faire face à la prolifération d'ongulés, eh bien, si on adopte cette politique-là, l'équilibre s'établit. Et en forêt primaire, tout est en équilibre. Il n'y a jamais de pullulement ni de disparition. Bon, c'est un peu risqué, c'est un pari sur l'avenir. Et puis c'est un peu utopique, le projet dont je vous parle. Mais les gens qui n'ont pas d'utopie dans la tête, moi je les plains parce qu'ils n'iront jamais très loin.
Il y avait d'autres questions là-haut.
Oui, bonjour à tous. À défaut de forêts primaires, il y a autour de nous un certain nombre de vieilles forêts. Et il y en a en Haute-Garonne, il y en a en Occitanie. Elles font l'objet d'une attention particulière d'un certain nombre d'acteurs naturalistes et scientifiques. On va pouvoir les retrouver à travers des programmes d'action dans des documents cadres comme le plan régional forêt-bois, comme la stratégie régionale biodiversité. Je pense qu'elles feront l'objet aussi d'une attention particulière dans la stratégie air protégée.
Ça m'intéresse de vous demander si elles sont réellement protégées. Est-ce qu'il n'y a aucune exploitation des bois? Est-ce qu'il n'y a aucune chasse?
Alors, dans le protocole de caractérisation de ces vieilles forêts, qui a fait l'objet de travaux entre l'école d'ingénieurs de Purpan, des experts forestiers, le conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, des experts du conservatoire botanique, il y a un certain nombre d'éléments de caractérisation de ces forêts, dont l'ancienneté de non-exploitation. Je ne saurais pas dire à quand date cette non-exploitation.
Mais actuellement, il n'y en a plus.
Si, en Occitanie, il y a plusieurs milliers d'hectares de vieilles forêts. Et par rapport à votre question de est-ce qu'elles sont protégées, donc aujourd'hui, il y a un panel d'outils qui vont du contrat îlot de sénescence en politique Natura 2000, des outils air protégés, de la gestion conservatoire du Seine Occitanie. Mais en tout cas, ces outils et les moyens humains et financiers qui y sont consacrés, si localement ils peuvent permettre d'atteindre les objectifs de préservation, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux de société que vous avez rappelés. Et du coup, j'en viens à ma question. En parallèle de ce projet utopique, comme vous avez dit, et extrêmement ambitieux que vous portez, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à chercher à préserver ces vieilles forêts?
Bien entendu.
Notamment en travaillant peut-être sur le plan législatif, faire évoluer leur statut, pour éviter qu'après on aille les repêcher à travers des outils qui sont certes pertinents, mais qui ne seront pas à la hauteur des défis et enjeux.
Bien entendu, vous avez raison, il faut protéger ça. C'est très précieux. Le problème, c'est que bon, l'être humain, il est surprenant. Il est manipulé par un anthropocentrisme effréné. Et il y a beaucoup de forestiers qui vont vous dire qu'une forêt qu'on n'exploite pas, elle va s'étouffer et mourir. Texto. J'ai discuté avec, bon, je ne vais pas mettre tous les forestiers dans le même sac, mais il y en a qui sont vraiment totalement hermétiques à l'idée de la libre évolution. Il y en a un qui m'a dit, j'ai vu ça, c'est un bordel infâme. Bon, j'en déduis qu'il y a des forestiers qui n'ont pas encore compris l'intérêt de l'écologie. Voilà.
Ce sera d'ailleurs un thème, monsieur, pour étayer et pour vous apporter encore plus d'éléments de réponse. Ce sera l'un des thèmes qui sera abordé tout à l'heure dans la seconde partie de notre premier rendez-vous table ronde, notamment avec Sophie Maillet de l'association Nature en Occitanie et avec Jean-Olivier. Puisque vous allez rester avec nous, vous aurez sûrement d'autres éléments qui viendront justement en réponse à la question que vous venez de poser.
Je complète également en disant que ce soir, dans la conférence avec Ernst Jascher, on aura un éclairage aussi sur ce qui se passe en Suisse, où ils ont beaucoup avancé sur ces questions juridiques. Il y a vraiment toute une loi suisse qui est favorable à la protection juridique de personnes morales autour des forêts. Donc ça, c'est Ernst Jascher qui en parlera le mieux, et il aura un temps dédié lors des échanges de la soirée. Une dernière question, peut-être, ou deux. Allez, si on est rapide. Ici, d'abord.
Oui, je viens d'un village où on a constitué une équipe de citoyens. On essaye de planter.
Pouvez-vous parler plus près du micro si...
Non, oui, ça va. Là, ça va, là.
Je vous entends mal.
Oui, on a pour projet de planter des arbres avec une équipe de citoyens dans mon village. Et je vous entendais parler tout à l'heure de la microforêt. Et c'est une méthode qu'on a rejetée parce qu'on a entendu parler comme quoi les micro-forêts adoptent une méthode un peu particulière où les arbres sont très serrés et du coup il y a un stress qui se crée et la micro-forêt au bout de 10 ans, on nous l'a vendue comme ça, là, au bout de 10 ans elle est foutue. Quoi.
Excusez-moi, c'est qui on vous l'a vendue?
Alors, d'où ça vient? De renseignements divers et variés. On est toute une équipe et je ne sais pas exactement. On a recoupé et on est tombé. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette polémique par rapport aux micro-forêts. Comme quoi...
Si, j'en ai entendu parler, bien sûr. Mais je crois que nous aurons un peu plus tard dans l'après-midi une discussion là-dessus.
Oui, je crois. Francis Allais reste avec nous, puisque c'est le grand témoin de l'après-midi. Il va y avoir plein d'interventions sur des sujets très différents, dont les micro-forêts, et donc à la fois vous pourrez poser des questions sur ces sujets, il n'y a pas de gens mieux placés que ceux qui le font pour en parler, et après Francis Allais nous donnera son regard, parce que là on est parti de très loin, on a compris que c'est pas sûr qu'on ait une forêt primaire près de chez nous, mais en attendant il faut qu'on avance tous sur plein de sujets et qu'on essaye d'avancer dans le bon sens. Et donc, le regard de Francis Allais sera précieux sur tout ce qu'on va vous présenter avec des acteurs qui font depuis des micro-forêts jusqu'à des forêts un peu plus importantes. Il y a des acteurs très différents. Et je crois que c'est important qu'on ait tout à l'heure le regard de Francis Allais sur les expériences, ce qui est fait, et puis qu'on réponde à ce moment-là à toutes vos questions, une fois que les acteurs ont présenté le travail qui est fait, que ce soit sur les vieilles forêts, ou que ce soit sur les micro-forêts, ou que ce soit sur tous les sujets.
D'accord. C'est bien. Très bien, on va conclure cette phase de questions et cette première partie sur la forêt primaire. Merci Francis Allais, merci à tous pour vos questions. Je vais redonner la parole à ma collègue Nathalie. Vous pouvez applaudir Francis Allais, je pense.
C'est exactement ce que j'allais vous suggérer. On retrouvera donc Francis Allais, Julien Deséco, vous êtes le directeur du magazine Sans Transition. Merci infiniment pour que vraiment vous ayez toute l'information. Vous avez été très 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 nombreux à vous inscrire à la conférence débat de ce soir avec Francis Allais et Ernst Zürcher. Ce sera à partir de 19h dans le pavillon République. Pour autant, nous avons prévu un dispositif de retransmission qui se fera ici même dans cette salle de l'Assemblée pour vous tous qui avez envie de pouvoir suivre justement cette conférence et pour tout à l'heure à partir de